Prenez du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes ? Qu'est-ce donc Apollos ? Et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leurs ruses et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Alors, peut-être que vous vous rappelez que donc j'avais déjà prêché sur les deux premiers chapitres, donc c'est un peu la suite. Le gros problème de l'église de Corinthe, dans tout cas cette partie-là, c'est que, voilà, il y a des querelles partisanes, il y a des attitudes qui, finalement, sont indignes de gens qui se disent spirituels. Et donc, Paul les reprend et leur dit, mais écoutez, vous n'êtes pas spirituels, vous êtes charnels. La preuve même que vous êtes charnel, c'est qu'il y a parmi vous de la jalousie. Il y a des dissensions. Et vous agissez comme des hommes. N'est-ce pas? À la fin du chapitre 2, il dit « L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Et donc, il dit « Vous n'êtes pas spirituel. Vous ne discernez pas la réalité des choses. » Vous ne discernez pas ce qui est en train de se passer dans votre assemblée. Donc vous vous conduisez comme des enfants. Vous êtes charnels. Lorsque je suis arrivé à Rora, en Angleterre, donc pour la conférence, une des premières personnes que j'ai croisées m'a immédiatement parlé des problèmes dans son église qui étaient de cet ordre-là. Oui, certains croient à cette doctrine et ils ne font que prêcher ça, et d'autres croient à cette doctrine et disent, mais vous ne devez pas prêcher autant de ça, vous devez être plus équilibré. Il était en train de me décrire ce qui se passait à Corinthe. Le problème, ce n'est pas qu'on n'est pas d'accord sur les doctrines. Le problème, c'est que si on en est au stade où on se divise, si on se dispute sur des doctrines, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui s'est passé. C'est qu'on a perdu de vue la centralité du message. On a perdu de vue que ce qui compte, c'est Christ crucifié et la puissance de Dieu par l'Esprit de Dieu qui vient pour rendre vivantes ces choses dans la vie des uns et des autres. Alors, je vais passer un peu l'introduction parce que je n'aurai jamais le temps. Et je vais passer directement au corps du message. Alors, il faut juste que je m'y retrouve. Voilà. Je vais rester sur la partie à partir du verset 10. Juste avant, Paul développe une illustration en disant « Vous êtes le champ de Dieu ». C'est-à-dire qu'il prend une illustration agricole, on va dire, pour expliquer quelle est l'œuvre de Dieu dans l'Église et quelle est la place des hommes dans l'Église. Et une question qu'il pose, c'est « Qu'est-ce qu'Apollos ? Qu'est-ce que Paul ?» Des apôtres, des grands apôtres. On les perçoit bien comme ça aujourd'hui. Mais ce n'est pas ce que Paul dit. Et d'ailleurs, il le répète plus loin. Il dit, je suis le moindre des apôtres. Il dit, qu'est-ce que Paul ? Qu'est-ce qu'Apollos ? Des serviteurs. Des serviteurs. Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Des serviteurs et donc des moyens, des outils, n'est-ce pas ? Les moyens de travail, ce sont nos outils. Paul et Apollos ne se voient pas comme des apôtres. Ils se voient comme des serviteurs, des gens qui sont là pour travailler. Il est dit plus loin, pour être ouvriers, avec Dieu. Combien de fois on entend dire « J'aimerais être ouvrier pour Dieu ». C'est pas pareil. C'est pas pareil. On est des serviteurs. Paul plante. Apollos arrose. Dieu fait croire. Paul et Apollos tout seul, ça ne donne rien. Dieu fait croître. Et croyez-moi que Dieu peut aussi planter et arroser. Ensuite, Paul passe d'une image d'une agricole à une image dans le bâtiment. Et donc à partir du verset 10. Fin du verset 9, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et là, il y a un glissement. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et j'aimerais juste vous poser la question à vous ce matin. Quel est votre fondement ce matin? Sans réfléchir, vous allez me dire, mais c'est Jésus. C'est Jésus. Alors laissez-moi vous faire d'autres propositions. Est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est la République? Est-ce que c'est la religion évangélique? Est-ce que c'est le catholicisme? Est-ce que c'est le protestantisme? La mission? L'éducation? Le droit? Le travail? Le pasteur? Les anciens? Les prophètes? La philosophie? Les études? La paresse? Vos enfants? Vos parents? Le conjoint? Le compte en banque? La pauvreté, l'angoisse, la peur, la confiance, votre propre caractère, votre propre force. Bien souvent, on dit rapidement « c'est Jésus » sans réfléchir, n'est-ce pas? Les enfants le disent, même qu'ils en rajoutent pour se moquer un peu, parce que dès qu'on pose une question, ils répondent « c'est Jésus ». Sans même avoir entendu la fin de la question. Est-ce que nous ne sommes pas parfois aussi des enfants? Lorsque nous disons c'est Jésus, et que nos actions dans la vie nous prouvent jour après jour que c'est le contraire, ou que c'est Jésus avec la culture, la profession, le compte en banque, la pauvreté, la richesse, la peur, l'angoisse, l'incertitude. Quel est réellement notre fondement ce matin? Pas quel est le fondement qu'on extrapole ou qu'on imagine être le bon fondement, pas la bonne réponse, la vraie réponse. Pour chacune de nos vies, quel est ce matin, frères et sœurs bien-aimés, votre fondement, ton fondement? Sur quoi te reposes-tu dans la vie? Quel est ton appui? Qu'est-ce qui fait que tu peux marcher? Vous savez, de tout temps, lorsqu'on a construit un bâtiment, on a su qu'il fallait un fondement solide. C'est ce que Jésus disait, on va le lire dans Luc, Luc 6. C'est une question importante, frères et sœurs. Parce que on peut bâtir sur des fondements qui sont mal érigés. On peut bâtir. Mais l'apôtre Paul le dit après, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Et ce qui importe, c'est la base, c'est le socle. Et Jésus l'a répété et répété plusieurs fois, et notamment dans cette illustration avec la maison bâtie sur le sable et bâtie sur le roc. Écoutez, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Combien de fois j'entends, mais je prie et le Seigneur ne me répond pas. Et là, Jésus dit, mais pourquoi est-ce que vous me priez? Alors que vous ne faites pas ce que je vous dis, pourquoi est-ce que vous me cassez les oreilles finalement à me demander des choses, alors que ça fait des années que je te demande à toi de faire une chose et tu ne la fais pas? Ne faites-vous pas ce que je dis. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi et entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Et là, c'est le problème, c'est qu'on creuse pas On attend que les autres le fassent pour nous. Et on demande au Seigneur de faire les choses que nous, nous devons faire. Et alors ça ne vient pas. Et la vie est bancale. On a toujours des problèmes. Demandez à Stéphane ce qui se passe si on met une maison mal fondée. Si on fait une fondation qui repose sur un terrain qui est du sable ou qui est de la terre qui n'a pas été damée, tassée. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Et dans nos pays, là où ça gèle, si on ne creuse pas suffisamment profondément, eh bien, les fondations vont geler et vont finir par s'éroder et vont perdre toute leur capacité de tenue. Frères et sœurs, il y a un travail à faire avant de poser le fondement. C'est de trouver le roc. Dans les psaumes, il est dit que c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Psaume 119, c'est la vérité qui est le roc. C'est la vérité. Et Dieu pose le fondement sur la vérité. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entends mes paroles et les mets en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue. Un cataclysme est venu. Un tsunami est venu, s'est jeté contre la maison sans pouvoir l'ébranler. Ça, c'est le message de Jésus-Christ. Ça, c'est la réalité de la parole de Dieu qui agit avec puissance dans un enfant de Dieu. Parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. On peut dire dans le sable, parce que c'est plus du sable là-bas que de la terre. Sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. J'ai reçu il y a quelque temps des images de missions qui avaient été complètement détruites d'une mission notamment qui avait été complètement détruite à cause de l'eau qui était venue et qui avait simplement fait fondre les maisons tellement le courant était fort et tellement ces maisons étaient fragile, n'était pas faite pour durer. Frères et sœurs, est-ce que notre maison a été construite pour durer? Je ne vais vraiment pas arriver à faire ma prédication en entier, mais sachez que le Seigneur n'attend pas de nous que nous soyons juste assis sur nos chaises, à caresser notre nombril et à nous dire « mais aujourd'hui ça va bien, tout ira bien demain ». Il souhaite que nous grandissions dans la foi, que nous devenions autre chose que des enfants charnels, dont parlait Paul. Il aimerait que nous devenions autre chose que des gens qui n'arrêtent pas de lui casser les oreilles à demander des choses, alors qu'eux-mêmes n'ont pas fait ce qu'il fallait auparavant. Il aimerait que nous soyons tous des colonnes. Parce que l'Église de Christ est une édification. C'est ce que dit Paul après. N'est-ce pas? Il y a Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Frères et sœurs, une colonne dans une église. L'Apocalypse en parle pour l'église de Sardes. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Est-ce que vous êtes un pilier sur lequel je peux venir et m'adosser contre lorsque j'ai besoin? Est-ce que vous êtes un pilier sous lequel je peux me réfugier? Est-ce que vous êtes un pilier contre lequel je peux m'appuyer vraiment, m'adosser? Est-ce que quand je viens vers vous, je me sens rassuré? Ou est-ce que je suis plus malade que quand je suis venu? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi si je suis en difficulté? Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que je peux venir vous parler de choses qui sont personnelles? Est-ce que vous allez pouvoir faire quelque chose pour moi? C'est ça une colonne. C'est ça une colonne. Ça tient un édifice. Mais la colonne, elle, a besoin d'un fondement tout à fait spécial, n'est-ce pas Stéphane? Quand on fait un pilier, eh bien il lui faut son fondement à lui, tout particulièrement. Est-ce que vous êtes bien fondé sur Jésus-Christ seul? Vous savez, aujourd'hui, ces choses dont parle l'apôtre Paul, il les sentait. Il sentait l'apostasie venir, en réalité. Il sentait que les hommes se pavanaient à dire des choses, et ce qu'ils cherchaient, c'était non pas seulement à détruire l'Église, mais à saper le fondement que Paul avait posé. Et il le dit dans le prochain chapitre, au verset 14. « Je vous avertis comme mes enfants bien-aimés, car vous auriez 10 000 maîtres en Christ. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères. » C'est-à-dire, vous n'en avez pas plusieurs qui ont posé le fondement, à savoir Jésus-Christ. C'est moi, Paul, qui ai posé ce fondement de Jésus-Christ. Et ceux qui sont là, nombreux, il le met... Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Il y avait là des gens qui cherchaient à saper ce fondement que Paul avait posé. Et Dieu leur promet qu'ils seront détruits. Mais vous savez ce qui se passe depuis cette époque-là, dans toutes les églises chrétiennes, les hérésies sont venues pour saper le fondement. Alors, on connaît les problèmes qu'il y a dans l'Église catholique et qui sont devenus aujourd'hui institutionnalisés. Mais il y en a d'autres dans l'Église protestante qui sont beaucoup plus subtils. Aujourd'hui, on envoie des gens dans des écoles bibliques ou dans des universités de théologie. Et lorsqu'ils ressortent, ils ne croient plus en ce qu'ils croyaient quand ils sont entrés. Il ne croit plus en Jésus-Christ comme étant le fondement. J'ai souvent parlé de la théologie libérale ici. Il y a notamment une extension de ça, on les appelle les églises unitariennes. Eh bien, vous avez une quantité de gens donc, qui ne croient pas que Jésus est le Christ. Enfin, ils croient qu'il est le Christ, mais qu'il n'est pas Dieu. Et ils croient que toutes les religions monothéistes qui invoque un seul Dieu, travaille pour le bien de Dieu. Eh bien, beaucoup de pasteurs aujourd'hui croissant. Et il rentre par la grande porte dans les églises, il s'installe au micro, et peu à peu, il faut entrer cette doctrine dans l'église. Et les gens non avertis, avec les années, finissent par succomber. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'églises protestantes qui sont mortes grâce à cela. Et de plus en plus, ces choses viennent dans l'église évangélique. Frères et sœurs, quel est notre fondement ce matin? Est-ce que nous avons du discernement? Ou est-ce que nous sommes juste des enfants qu'il faut nourrir au biberon sans arrêt? Je vous laisse avec cette question, mais je vous en conjure. Répandez votre cœur devant Dieu. Si vous savez que ça vous parle, si vous savez que le Seigneur vous a parlé, alors arrêtez tout maintenant. Mettez-vous devant lui. Et Seigneur Jésus, jusqu'à présent j'ai mis ma confiance en toi et dans bien d'autres choses. Je veux que ça change. Je veux que ma confiance soit exclusivement en toi. Je veux que mon fondement soit uniquement Jésus-Christ. Voilà, je vous prie d'excuser mon coup de sang, c'était peut-être un peu fort, mais c'est comme ça que je le ressens, vraiment. Et je, c'est pas pour vous engueuler, c'est simplement que je veux que vous soyez avertis de ces choses. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous remettre tous devant ton trône et dire, ô Dieu, si notre fondement est partagé, Seigneur, viens dans notre vie. Seigneur, que nous puissions avoir les pieds fermement installés sur un appui qui est sûr. Que nous puissions nous adosser au roc. Seigneur, et là, bâtir, construire, Seigneur, des vies qui glorifient ton nom. Pas qui glorifient les hommes, pas qui nous glorifient, mais des vies, Seigneur, où l'homme a disparu. Et où l'Esprit de Dieu peut vivre en toute liberté et agir autour de lui. Seigneur, nous nous remettons à toi ce matin, afin que tu viennes. Seigneur, que tu nous guérisses du mensonge dans lequel nous vivons aujourd'hui et qui dit que c'est Jésus alors que c'est autre chose. Et Seigneur, que tu nous mettes les idées claires. Seigneur, et que par la foi aujourd'hui, nous puissions prendre un pas résolument et dire, ô Dieu, sois mon fondement, exclusivement. Seigneur, je me confie en toi, je m'abandonne à toi. Toutes mes peurs, toutes mes angoisses, Seigneur, tout mon argent, toute la confiance que j'ai accumulée au cours des années, tout cela, Seigneur, je laisse de côté. Et je te prends, toi, Seigneur, pour fondement. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous garde.